VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h30 temps universel. Bienvenue. La Zambie va vacciner 1 million de personnes. À Lusaka, la capitale, sévèrement frappée par une épidémie de choléra. D'importantes doses de vaccins ont été acheminées en Zambie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour éviter une propagation de la maladie à Lusaka. Le ministère zambien de la santé a fait savoir que 58 des 63 décès survenus dans tout le pays sont arrivés dans la capitale après l'éruption du choléra au mois d'octobre. Sur 2672 cas sur l'ensemble de la Zambie, 2558 ont été dépistés à Lusaka. Les observateurs de l'Union européenne ont publié hier un rapport final très critique sur le scrutin présidentiel au Kenya en 2017 qui accuse notamment les responsables politiques d'avoir nui au processus électoral et dont la présentation à Bruxelles a provoqué la colère de Nairobi. Les précisions, John Lindon.
Les élections générales de 2017 ont été caractérisées par une course à la présidentielle longue et dommageable qui a coûté des vies et a affaibli le fonctionnement démocratique du Kenya, affirme dans ce rapport la mission d'observation de l'Union européenne. Elle ajoute que le processus électoral a été endommagé par les leaders politiques qui ont attaqué des institutions indépendantes et par un manque de dialogue entre les deux camps. Un rapport très critique qui a tout de suite provoqué une vive réaction des autorités kenyanes. Pour l'ambassadeur du Kenya, ce rapport dénote un comportement dédaigneux et condescendant. Le président Uhuru Kenyatta a été réélu à l'issue du scrutin du 26 octobre, boycotté par l'opposition, au terme d'un feuilleton électoral à plusieurs rebondissements. Sa victoire lors d'un premier scrutin le 8 août auquel l'opposition avait participé a été invalidée en justice pour irrégularité dans la transmission des résultats. L'opposant Raila Odinga avait refusé de participer au second tour.
La présidentielle au Mali, c'est dans 7 mois et les annonces de candidatures se multiplient. Deux hauts fonctionnaires internationaux, Modibo Koné, un ancien de la Banque Ouest-Africaine de Développement, et Amadou Ntouré, l'ex-patron de l'Union Internationale des Télécommunications, sont sur la liste de départ. Abdourahmane Dia.
Après celle du maire de Sikasso, Khalifa Sanogo, et de l'ancien ministre, le général Moussa Sinko Koulibaly, ces nouvelles candidatures portent à 4 le nombre de prétendants à la succession du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a toujours pas dit s'il se représenterait en juillet ou pas. Modibo Koné, 57 ans, spécialiste financier et expert en développement rural, a affirmé qu'il se présentait pour notamment lutter contre la mauvaise gouvernance. « Notre pays a ce qu'il faut pour réussir », a-t-il assuré. Quant à Mohamedou Touré, 64 ans, ancien secrétaire général de l'UIT et actuel directeur exécutif de Smart Africa, le Mali va tout droit dans le mur, il a besoin de 100 nouveaux. Le Mali peut s'en sortir et je veux y contribuer, a-t-il expliqué. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a rassuré, lors de son discours de nouvel an, que tous les scrutins seront organisés à la date prévue.
Au Burkina Faso, les syndicats du secteur de l'éducation sont en grève. Les enseignants ont déposé la craie pour 72 heures pour exiger du gouvernement l'examen sérieux de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que le respect de leur profession. Des revendications sur lesquelles le gouvernement est invité à répondre instamment. En tout cas, c'est le conseil du coordonnateur des coordinations du syndicat de l'enseignement, Wendiam Zongo, au micro de notre correspondant à Ouagadougou.
Nous voulons que l'État essaie de revoir les rémunérations salariales des personnels de l'éducation et de la recherche, et l'accès à l'éducation pour que tous les enfants burkinabés puissent aller à l'école. Alors, quand nous prenons par exemple l'amélioration des conditions de travail, nous travaillons dans des conditions difficiles. Prenons par exemple la cantine scolaire. Quand ça arrive dans les écoles, c'est pour 2 mois. Alors que l'école dure 9 mois. Nous avons juste là récusé notre ministre d'être notre médiateur parce qu'il ne prend pas au sérieux nos revendications. Il faut que nous obtenions un protocole d'accord signé des deux parties qui nous donne une preuve et nous pouvons présenter ça à nos camarades, à nos militants. Et en ce moment maintenant, nous pouvons voir la conduite à tenir.
Wendiam Zongo, porte-voix des enseignants grévistes au Burkina Faso. Plus de 300 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures en Tunisie où des heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu pour la troisième nuit consécutive, ont indiqué jeudi les autorités, portant à plus de 500 le nombre d'interpellations en deux jours. Les troubles alimentés par une grogne sociale ont éclaté lundi alors que s'approche le 7e anniversaire de la révolution tunisienne qui réclamait travail et dignité et a chassé du pouvoir le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, c'était le 14 janvier 2011. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des heurts ont de nouveau eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Siliana, dans le nord-ouest de la Tunisie, Kasserine au centre et à Tebourba, à 30 km à l'ouest de Tunis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 6h05. La coalition sous commandement saoudien qui combat les Houthis au Yémen a averti que le principal port du pays constituait une menace pour la sécurité maritime après que ces rebelles ont menacé de bloquer la navigation sur la mer Rouge. Cette déclaration est intervenue après que le chef politique des rebelles Houthis, Saleh al-Samad, a menacé lundi de bloquer le trafic à travers la mer Rouge si l'alliance militaire dirigée par les Saoudiens ne lève pas son blocus sur les ports du pays et l'aéroport international de Sanaa. Le dossier de ce journal maintenant, l'ONG Porte Ouverte a publié hier son index mondial de persécution des chrétiens dans le monde. Plus de 3000 chrétiens, dont deux tiers au Nigeria, ont été tués dans le monde entre novembre 2016 et octobre 2017 pour des raisons liées à leurs croyances. La Corée du Nord figure pour la 17e fois d'affilée en tête de cet index, suivi par l'Afghanistan et la Somalie. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibou a joint le directeur de l'ONG Portes Ouvertes, Michel Varton.
Pour la cinquième année de suite, nous voyons la pression contre l'Église est de plus importante, à la fois au niveau de la violence, mais aussi au niveau de la pression quotidienne. 215 millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde vivent une persécution forte. Ça veut dire à peu près un chrétien sur 12 dans notre monde vit dans une situation de persécution intense.
Quels sont les pays où cette situation, où cette pression, où ces persécutions sont le plus importantes?
Alors, en haut de la liste, il y a la Corée du Nord. Pour la 17e année de suite, la Corée du Nord est l'année où c'est le plus difficile de vivre en tant que chrétien. Mais juste après, vraiment à juste un point, il y a l'Afghanistan et ensuite la Somalie. Donc ce sont les trois pays où aujourd'hui, par exemple, si on découvre que vous êtes chrétien, vous risquez fort d'être mis à mort. En Corée du Nord, ça veut dire être envoyé dans un camp de mort et vos proches vont aussi disparaître dans un camp de concentration. Pour la Somalie et l'Afghanistan, très souvent, la victime, la personne est tuée, considérée comme étant un fou. C'est une honte pour la tribu, pour le clan, et la personne est mise à mort.
Quels sont les autres pays africains dans lesquels les persécutions contre les chrétiens sont importantes?
On peut dire que le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus de violence, le plus de morts. Cette année, 2000 personnes au Nigeria ont perdu leur vie. Mais d'autres pays aussi, par exemple le Cameroun, où suite au débordement de Boko Haram, il y a eu une centaine de morts cette année. On peut parler aussi du Kenya. Là, le problème vient des Shababs et ils font des atrocités. Entre autres, ils tuent les hommes. Il y a eu des cas où on arrête des bus et on demande aux passagers de descendre. Et puis on demande aux gens, est-ce que vous êtes chrétien ou musulman? Et s'ils ne veulent pas réciter le Sharada, donc ils sont des chrétiens. Et on les tue sur le champ. Centrafrique, où malheureusement, il y a une recrudescence de violence. C'est les anciens de Seleka qui s'est divisé en petits groupes. De nouveau, ces groupes islamistes Seleka visent les chrétiens, les pasteurs, les églises. Donc vraiment, l'Afrique, en fait, c'est le continent où il y a eu le plus de morts cette année. Nous avons dans tout le monde entier enregistré à peu près 3000 décès et 90% c'est en Afrique.
Michel Varton, directeur de l'ONG Portes Ouvertes. Le président américain Donald Trump s'est dit mercredi ouvert à des pourparlers directs entre les États-Unis et la Corée du Nord au cours d'un entretien téléphonique avec le président sud-coréen Moon Jae-in qui envisage lui-même un sommet avec le régime de Pyongyang. Après deux années de tensions sur la péninsule en raison de l'accélération du programme nucléaire de Pyongyang, la situation s'est brusquement apaisée. Depuis le nouvel an, Donald Trump a changé sensiblement de Washington, n'écartant pas a priori la possibilité d'un échange téléphonique avec le dirigeant nord-coréen. Et puis le bilan des coulées de boue qui ont dévasté le comté de Santa Barbara en Californie s'est alourdi à 17 morts après que les sauveteurs ont trouvé de nouveaux corps, a annoncé le shérif du comté. Jean-Rocher Billon, prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.